Sangani sur 94,8.
7 cas de trypanosomiase ont été détectés lundi dernier dans l'aire de santé de Yabongengo, non loin d'Isangi, territoire situé à 125 km à l'ouest de Kisangani. Une détection faite par l'équipe de supervision de la trypanosomiase humaine africaine de la zone de santé d'Isangi. Nous aurons comme invité pour en parler Dr Angèle Yvon Akoumou, ministre provincial de la Santé. Mais d'abord, on va faire le point avec notre confrère Anselme Massoua qui s'est penché sur la question et qui s'est rendu d'ailleurs sur place pour se rendre compte de la situation. Anselme, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, Jeanne Lungebo.
Alors, qu'est-ce qui expliquerait la persistance de la trypanosomiase dans la zone de santé d'Isangi, alors qu'il y a 3 ans passés, l'ONG Médecins Sans Frontières avait mené des grandes actions de lutte contre cette maladie?
Jeanne Lungebo, notez d'abord que la trypanosomiase humaine africaine, communément appelée maladie du sommeil, sévit dans le territoire d'Isangi depuis des décennies. Selon les médecins chefs de zone de santé du Sangui, si jusqu'à présent la maladie persiste, c'est plus que le dépistage actif pour combattre cette maladie n'a jamais touché tous les villages de la zone, de sa zone et de santé. Écoutons à cet effet, Dr Dido Epeleka.
Le point est ceci, avec des moyens locaux, il y a les mini-équipes mobiles qui séjournent, il y a cela 4 jours dans l'aire de santé de Yabongengo. Il y avait juste là, donc c'est 7 cas. Si l'ensemble des populations examinées, ce qui fait le taux d'infection qui est derrière à 1%, qui constitue déjà un problème de santé publique pour la trypanosomiale, selon les normes nationales. La maladie n'avait pas encore occulté, puisque vous voyez que nous sommes dans la phase de contrôle, disons de la surveillance. Il y a encore des petites poches et le dépistage n'a pas été systématique. Et lors de l'examen, le dépistage actif, il y a les absents et tout ça. Parmi les absents, si est au stade de vérité, s'ajouter le réservoir de la maladie.
Alors comment la zone de santé n'arrive toujours pas à éradiquer cette maladie?
Notez d'abord, Jeanne Lungebo, que l'insecte mouche tété, l'agent vecteur de cette maladie, est toujours vivant à Isangi. Mais pour répondre à votre question, selon le docteur Dido Epeleka, le manque de moyens matériels et financiers constitue un obstacle majeur pour combattre cette maladie dans sa zone de santé. On l'écoute une fois de plus.
Quand je parle des ressources humaines, je vois l'ensemble des personnels qui sont impliqués dans la lutte. Les ressources humaines n'ont pas de problème parce que nous avons des professionnels de santé qualifiés. Le problème est au niveau matériel et niveau financier. C'est là où se pose des problèmes. Il y a les ressources matérielles, c'est là où pose un peu de problèmes. Et surtout aussi, l'enclavement de certaines localités, parce que les états de route, pour se déplacer, ça pose aussi des problèmes. Il faut prendre la voie fluviale, il faut voir comment les litres de carburant qu'on doit mettre. Tout ça, c'est autant de problèmes.
Et selon nos sources, le partenaire attitré de la zone de santé d'Isangi a déjà fermé ses activités dans cette partie du pays depuis décembre 2007. Et comment cette zone de santé compte maintenant prendre en charge la lutte?
Jeanne, signalons que juste après le départ de MSF Belgique, le fils et fille d'Isangi avaient organisé 2 séminaires de réflexion cette année pour la prise en charge de lutte contre cette maladie. En février dernier, ils ont su mettre sur place, sur pied bien sûr, une caisse de solidarité pour cette prise en charge. Tout en parlant des actions de cette caisse, Crispin Kakwaka, administrateur du territoire d'Isangi, lance un cri d'alarme aux hommes et femmes de bonne volonté pour secourir son territoire contre cette maladie. On l'écoute.
Mais cette situation nous laisse perplexes parce que Yabongengo est à quelques mètres du centre d'Isangi. Il y a eu le dépistage actif qui avait été fait à Bokone, où l'on avait découvert le cas, et la caisse de solidarité est intervenue avec 200 dollars à cette époque-là. Maintenant, là, il y a cette recrudescence qui se fait voir, et il y a l'intervention de la caisse de solidarité avec 1000 dollars. Un cri d'alarme, que je lance au gouvernement provincial, au gouvernement du pouvoir central, aux hommes de bonne volonté, aux organismes internationaux qui peuvent nous appuyer. Ma population mère, je demande à tous celui et à l'ami de Sangui de venir au rescousse de Sangui, sinon ma population va être décimée.
Voilà, nous allons avoir un peu plus de précisions avec notre invité Angèle Yvon Akoumou, ministre provinciale de la Santé. Mais avec vous, Anselme, on s'arrête là et à très bientôt.
Merci, Jeanne Longuebou.
Okapi, pour que la paix ne soit pas qu'une belle idée.
Angèle Yvon Akoumou, vous êtes ministre provinciale de la Santé, vous êtes en ligne, bonjour. Voilà, nous avons en ligne Angèle Yvon Akoumou, ministre provinciale de la Santé. Vous êtes en ligne, bonjour. Voilà, c'est à la tête d'un moment à l'autre, le temps pour nous de vous rappeler nos deux numéros pour participer à cette émission des 081-070-2050 pour les SMS. Et si vous nous suivez sur le net, écrivez à action@radiocapi.net. Angèle Yvon Akoumou, ministre provincial de la Santé, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous venez de suivre le point que venait de nous faire notre confrère Anselme Massois. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ce qui serait à la base de la recrudescence de la trypanosomiase à Yabongengo?
Si vous avez eu à communiquer directement avec le médecin chef de zone, qui est le responsable de la zone de santé du Saint-Louis. Il vous a expliqué dans quelles conditions le partenaire qui nous a payé, MSF qui était sur terrain, ils ont quitté la zone lorsqu'ils ont constaté que les cas ont diminué dans la région. Ils ont trouvé que ce n'était pas utile à ce qu'ils fassent l'urgence pendant cette période. Mais ils ont laissé les équipes sur place pour qu'ils continuent à identifier. Et dès que nous atteignons, nous pouvons atteindre un seuil, à ce moment, nous aurons dans quelles conditions nous pouvons encore, avec le moyen propre, puisque jusque là, le gouvernement n'a pas lâché le médicament. On ravitaille régulièrement le site, qui est la zone de santé du Saint-Guy, à l'hôpital général. Et ce qui est vrai, la population qui se retrouve dans des localités à l'intérieur du territoire, il y a un problème d'accès. Et lorsqu'ils étaient dans des recherches actives, pendant ce temps, le partenaire a mis beaucoup de moyens. Puisque là, il y avait les hors-bord, il y avait des motos, il y avait des véhicules, et ils étaient ravitaillés régulièrement en carburant, et en plus, le personnel, il y avait une forte équipe qui était mis à la disposition de la zone de santé pour effectuer cette activité. À l'heure actuelle, si nous commençons à reprendre encore, il y a cette recrudescence, il est question à ce que toutes ces données parviennent au niveau du ministère et en plus au niveau national, comme ça nous verrons, puisque ça demande beaucoup de moyens. Nous espérons qu'avec toutes les nouvelles que vous avez et nous-mêmes, ce que nous avons déjà sur notre table, nous sommes en train de voir dans quelle mesure possible. Nous pouvons déjà commencer à faire quelque chose dans la mesure du possible.
Oui, mais ce qui étonne plus d'une personne, c'est que Médecins sans frontières, alors partenaire attitré de la zone de santé d'Isangui, avait déjà fermé ses activités depuis décembre 2007. Et une année plus tard, rien n'est encore fait concrètement au bénéfice de la population quant à la prise en charge des cas de trypanosomiase.
C'est comme je vous l'ai dit, ils sont venus en urgence. ils sont venus aider la région, parce qu'à un certain moment, nous étions déjà arrivés à un stade où il fallait vraiment qu'il y ait un partenaire qui viendrait nous appuyer pour relever cette situation. Il se fait que lorsqu'ils ont stabilisé, ils ont laissé une petite équipe juste pour la surveillance. Il se fait qu'aujourd'hui, il y a une recrudescence. Il faut reprendre le processus.
Okay.
Il faut reprendre le processus.
Donc, on peut dire
que... Je vais expliquer.
Oui, docteur Angèle, on peut dire qu'aujourd'hui, la situation qui prévaut sur place, elle est vraiment très alarmante. Hein.
En fait, ce n'est pas ce que je vous ai dit, c'est que la zone de santé vient de nous donner les informations. Les informations qui sont sur terrain, ça nécessiterait aussi qu'il y ait des techniciens du domaine qui vont aller faire aussi la même enquête. Si ça s'avère que c'est la même chose, c'est à ce moment que nous pouvons vous dire que nous allons, avec le moyen de bord d'abord, il y a toutes les molécules qui sont là, mais vous avez suivi le médecin chef de zone qui dit il ne s'est pas déployé toute l'équipe qui est sur place à l'intérieur, faute de moyens logistiques. Il faut des bureaux, il faut des motos pour que les gens aillent partout dans tous ces villages pour surveiller tous ces patients. Mais il se fait qu'à l'heure actuelle, ils n'ont pas ce moyen. Dans nos sites, dans nos postes de santé ou centres de santé qui se trouvent dans ces localités, il est vrai, il faut bien que ces prestataires formés soient aux côtés de nos prestataires habituels de centres de santé pour qu'ils puissent administrer des médicaments. C'est ça le problème.
Alors,
et c'est vrai, quand on a aussi un effectif qui dépasse le molécule qui vient sur place, il faut que je suis payé. C'est pourquoi on décide qu'on déna de ce fait, nous sommes obligés de chercher des moyens additionnels pour pallier à ce problème.
Oui, tout à fait, docteur. Avant que vous cherchiez des moyens, ce premier rapport qui vous a été remis fait état de quelle situation épidémiologique?
Moi, je ne pourrais pas vous dire avec un peu plus de détails de chiffres, hein, parce que là, c'est par rapport aux chiffres qu'on nous a dit, qu'on a présenté à notre équipe de surveillance provinciale au niveau de la division provinciale de la santé, nous a fait état de cette situation. Il y avait déjà une recrudescence. On commençait à identifier un peu plus tout ça. Et à un certain moment, la zone de santé devait être débordée à prendre correctement en charge ces patients. Raison pour laquelle, nous disions, il fallait accepter. On puisse aussi informer le programme national, et c'est un programme national par rapport à cette lutte, la lutte contre la tétanosomiase. Pour qu'on voie dans quelle mesure c'est possible avec le partenaire habituel qui est MSF.
Oui, docteur Angèle, s'il vous plaît, restez en ligne, on va poursuivre notre entretien dans quelques instants après le flash d'information. Et nous rappelons à nos auditeurs, s'ils nous suivent sur le net, ils peuvent participer en nous écrivant à action@radiocapi.net. Il est 10h à Kinshasa, 11h à Isaïe. Flash info, Belinda Bosuma.
Les enseignants du secteur public ont manifesté hier soir dans les rues de Kamina, à 600 km au nord de Lubumbashi. D'après le chef de division de l'enseignement Katanga 2, ces enseignants réclament le paiement de leurs arriérés de février et mars dernier. Les manifestants ont menacé de mener d'autres actions pour faire entendre leur voix. À cet effet, une rencontre est prévue cet après-midi entre les responsables des CCOP, les chefs d'établissement, les syndicats des enseignants et les responsables de l'EPSP Katanga 2. Katanga toujours, la réforme de la police était au centre d'une réunion de restitution tenue hier à Lubumbashi par la société civile de cette province. Cette rencontre qui fait suite à celle de Matadi organisée du 25 au 27 mai dernier vise à ramener la police et la population civile à une coexistence pacifique. Plusieurs éléments de la police ainsi que les membres de la société civile ont pris part à cette rencontre. Ces travaux sont financés par IDASA, une ONG sud-africaine. Pendant ce temps au Sud Kivu, une mission conjointe du comité de suivi suivi contre les exactions de la police nationale congolaise s'est rendu hier à Walungu. Objectif, étendre son périmètre d'activité en dehors de la ville de Bukavu. Composé des délégués de la police nationale, police civile de la MONUC et de la section droits de l'homme, ce comité de suivi est descendu pour la première fois sur terrain. Selon le commandant de la police civile MONUC Bukavu, c'est pour évaluer avec les partenaires sur terrain la pratique du métier et les objectifs de la police nationale en vue de sanctionner les probables auteurs de ces actes. Restons au Sud Kivu avec ce lancement aujourd'hui de la deuxième phase de la campagne de vaccination anti-polio chez les enfants de moins de 5 ans. Selon Manu Borolé, médecin inspecteur provincial de cette province, 790 équipes de vaccinateurs sont déjà sur terrain pour le porte-à-porte. Il ajoute qu'il faut arriver à vacciner beaucoup plus d'enfants qu'à la première phase où ils ont atteint 883 000 enfants dans toute la province. Province orientale, la FAO organise depuis hier à Bunia une session de travail sur le plan et méthode d'intervention humanitaire dans le domaine de la sécurité alimentaire. 40 personnes prennent part à cette session de 2 jours. Il s'agit notamment des inspecteurs de l'agriculture et les responsables locaux du programme national de nutrition. Selon les responsables du bureau de FAO en Ituri, à l'issue des travaux, les participants vont élaborer un document de base relatif au plan et méthode d'intervention humanitaire dans le domaine de la sécurité alimentaire.
L'actualité se poursuit sur les ondes de Radio Okapi tout à l'heure à 11h avec nous, Belinda Bosuma. Nous poursuivons avec Okapi Action. Nous avons toujours en ligne Dr. Angèle Yvon Akoumou, ministre provincial de la Santé. Docteur, vous êtes encore avec nous?
Oui, je vous suis, monsieur le journaliste.
Alors, vous parliez tantôt de partenaires, notamment le programme national de la lutte contre la trypanosomiase, ainsi que d'autres partenaires traditionnels avec lesquels vous allez, disons, amorcer encore d'autres démarches autour de cette lutte. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ces partenaires déjà visés et quel genre de plaidoyer allez-vous faire à leur intention?
Dans des temps d'urgence, puisque ce qui est vrai, comme je vous ai expliqué, les molécules que nous avons en plus de ça, nous sommes limités par les moyens pour arriver à mener à une action de grande envergure afin de répondre à cette épidémie. Et il se fait, comme vous le savez, en province orientale, il y a MSF en Belgique qui était avec nous à Ispagny. Il avait fermé ses portes, mais dans la même région, ils étaient vers le Haut-Kélé, là où ils avaient aussi le même cas. Mais aujourd'hui, comme il y a la recrudescence de la trypanosomiase dans la zone de santé du Sangui, nous espérons qu'après toutes ces enquêtes, comme je vous ai dit, ce sont les cas que la zone de santé a déclaré, ça nécessiterait maintenant une enquête ou confirmer, et dès qu'on confirme et qu'on trouve que le problème nécessite encore de moyens pour faire face à ça. Le partenaire habituel, c'est MSF. Si MSF n'a pas de moyens, il y a d'autres partenaires dans la province qui peuvent s'occuper des urgences.
Voilà. Alors, c'est une question qui nous a pris par ça. Est-ce que vous avez suffisamment d'équipes mobiles pour le dépistage actif?
Je pense que les véhicules, tous les engins que MSF a payé la zone pendant la période de recrudescence de l'année passée sont dans la zone de santé. Il y a des véhicules qui sont là-bas, parce que comme vous l'avez suivi, le médecin chef de zone vous a dit, ils n'ont pas tous les moyens, parce que ça nécessite les carburants. Par rapport à tous ces budgets, ils ont les préparateurs qui étaient formés, qui sont encore dans la zone de santé. Ce sont des frais additionnels qu'on est en train de solliciter pour le moment, afin que la zone de santé soit à mesure de faire face à cette épidémie.
Alors, par rapport à ce que vous dites, on peut quand même oser dire que la caisse de solidarité de Sangui, à elle seule, ne peut pas faire face à cette maladie. Hein. Il faut encore des moyens conséquents.
Bien sûr, puisque la caisse, ça continue. Hein, cette solidarité locale, il continue à récolter quelque chose juste pour en subvenir à certains besoins. Et lorsque ça nécessite des grandes actions, ça nécessite des fonds.
Oui, parce que vous parlez de fonds, docteur Angèle, je crois que quelque part, il y a sûrement des partenaires qui nous suivent. Est-ce que vous pouvez avoir déjà une idée sur les coûts financiers de cette lutte? Combien ça peut vous coûter? Est-ce que vous avez déjà évalué, par exemple?
Oui, si je pense que ça demande un peu plus de technicité. C'est tout ce que le professeur a besoin pour arriver à faire face. C'est tout ce qu'on va évaluer. Et ce qu'on va faire. Mais je pense avec le budget de la fois passée, par rapport à l'effectif qui était estimé, le partenaire a une idée. Si aujourd'hui, avec l'enquête extérieure qui viendra dans la région, ça confirme que les prestataires locaux ont été identifiés avec notre équipe de surveillance. J'espère que c'est à partir de ça que le partenaire et mon service pourront voir qu'est-ce qui peut dégager comme budget. À l'heure actuelle, moi, je ne saurais pas vous dire quel serait le budget.
Alors, disons, à quoi ça sert maintenant les moyens que le MSF Belgique a vous a laissé? Est-ce que, finalement, ces moyens aussi sont insuffisants?
Le moyen que le MSF Belgique a... Lorsqu'on est en phase... À la phase d'épidémie ou de récidivisme, comme vous l'avez, ça demande plus de moyens. En plus de ce qu'ils ont laissé, c'est cela que c'est juste pour lorsqu'ils ont cassé les pics, et c'était quelque chose en fait que les autres puissent continuer. Raison pour laquelle ils ont quitté la région pour aller appuyer la zone de santé qui posait encore des problèmes. Mais c'est aujourd'hui, dans la même région, on a connu le même problème. Vous avez très bien suivi notre message sur des hommes du Saint-Louis qui vous a expliqué quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées. Et c'est par rapport à ces difficultés, peut-être que dans des zones, des localités intérieures de leur zone de santé, ils n'ont pas pu régulièrement envoyer le prestataire qui devait passer pour se rassurer de certains cas qui étaient en train de suivre, et les cas se sont aggravés. Si aujourd'hui, ils ont dû enregistrer beaucoup de cas positifs, qui n'ont pas pu soigner, c'est puisqu'on ne peut pas prendre ces cas graves et les ramener à l'hôpital général de référence. Et en plus, à l'hôpital général de référence, puisque ce sont des malades qui sont suivis pendant une longue période. Comprenez, l'hôpital n'a pas tous ses moyens pour faire face. Et donc, si le partenaire était là, que tout était budgétisé et qu'on faisait ça comme ça, et ils ont été une équipe qui devait suivre juste pour la période qui était déjà... on avait cassé l'épidémie. Et ils devaient maintenir la situation pour que la prévention... la sensibilisation de la population, comment est-ce qu'ils devaient se comporter, puisque cette région, peut-être que vous ne l'avez pas encore vu, il y a beaucoup de moustiquaires. Et c'était ça, ce qui était resté. Et puis les quelques cas qu'ils avaient, ils avaient des molécules qui venaient du programme national. Et c'est ces molécules qu'ils étaient en train d'utiliser aussi pour soigner certains cas qui ramenaient à l'hôpital.
Voilà, alors docteur, où en sommes-nous avec les pièges à moustiquaires?
Je pense que c'est par rapport à ça que je vous disais, la population a continué avec le relais communautaire à sensibiliser tout le monde dans la région, je pense dans tous les ménages de la région, ils devaient avoir ces pièges pour qu'ils ne se fassent pas piquer par ces mouches. Et que ces mouches, bon, ils sont toujours détenus par ces pièges. Bon, il se fait que s'ils sont limités et que la population a trouvé qu'on avait déjà cassé cette épidémie. Des fois, la population a oublié. Parce qu'il fallait passer régulièrement pour vérifier si la population est en train de prendre ça en compte et de continuer toujours à mettre en place ces pièges. Et puis la région, peut-être qu'il y a d'autres régions qui n'étaient pas connues à l'époque, ou des sites localités qui n'étaient pas connues à l'époque, qui aujourd'hui on découvre que dans ces localités aussi, le même problème se pose. Et que ce que je devais savoir, ce n'est pas dans toutes les localités qu'on découvre le cas, hein, avec beaucoup plus d'inquiétude. Mais c'est dans certaines localités bien précises qu'on découvre tous les cas qu'on a identifiés. C'était comme ça. Le relais communautaire, la mobilisation sociale de la zone de santé et le chargé de communication qui s'intéresse plus à aller sensibiliser ce village ou ces localités.
Oui, docteur Angèle, sans moyens, on ne peut rien faire. Et j'imagine que, disons, par rapport à toutes ces difficultés que vous avez, la prise en charge toutes ces personnes qui souffrent de la trypanosomiase, autrement dit maladie du sommeil, cette prise en charge n'est pas correcte. Hein.
Moi, je pense que la prévention, c'est la meilleure. La meilleure thérapie qu'on ne fait pas aujourd'hui. On peut faire mieux. Vous n'êtes pas avoir cette maladie, hein, c'est la part. Ce qui serait intéressant pour la zone de santé, ils étaient informés et comment est-ce qu'ils devaient faire face. C'est pourquoi ils devaient continuer à sensibiliser. À ma grande connaissance, moi je sais que dans la région, c'est tout le monde qui sait. Et lorsqu'on est devant, il faut mettre ses pièges et la population était informée. Ça, c'est vraiment quelque chose d'appréciable que la zone de santé avait dit par rapport à l'intervention que MSF Belgique avait fait en son temps.
Docteur Angèle Yvon Akumu, il y a beaucoup à dire autour de cette question sur la lutte contre la trypanosomiase. Les temps nous font défaut, nous ne pouvons pas continuer, on peut s'arrêter là avec vous. Et nous rappelons que vous êtes ministre provincial de la Santé de la province orientale. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.
Merci,
voilà, nous passons directement à notre chronique Les institutions, c'est facile à comprendre.
Okapi, les institutions, c'est facile à comprendre.
Yebisa bison de Kosindani, baboni a régi des eaux, va s'engager au sol, la